Bonjour et bienvenue sur Radio Tropique et dans cette nouvelle émission de Résonance. Résonance vous invite au cours de cette nouvelle saison à partir à la découverte de ces territoires, de ces acteurs qui au quotidien travaillent, inventent, initient des projets artistiques à partir de cette question: comment la création sous toutes ses formes peut être le moteur de la rencontre, du faire ensemble, du vivre ensemble. Je suis accompagné dans cette émission par Josie Josserand, Lucien Guérinel et Simon Deborne à la technique et à la réalisation. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale pour évoquer, pour faire découvrir un homme, un humaniste, un musicien, un compositeur, Antoine Tisney. J'imagine, chers auditeurs, fort bien votre étonnement, votre regard interrogatif lorsque j'évoque, je prononce le nom d'Antoine Tisney. Quel est cet homme dont la musique est assez peu présente dans les médias et qui ne fait que peu l'objet d'articles de la part des journalistes de la presse spécialisée? Vous savez qu'au sein de Résonance, nous aimons et nous attachons beaucoup d'importance à rendre visible, lisible, la pensée, la sensibilité, l'univers artistique, l'œuvre d'hommes et de femmes dont on évoque trop rarement le parcours sur l'ensemble des différents médias et que la frénésie, la hiérarchie de la culture ignore ou plonge dans le profond oubli. Nous avions, pour notre part, déjà consacré en 2007, dans le cadre de cette même émission, une partie importante à la musique et l'œuvre d'Antoine Tisney. Le fait qu'il soit à nouveau à l'honneur dans cette présente émission, outre, bien entendu, le grand intérêt que nous portons à l'homme et à sa musique, provient de notre volonté de nous inscrire en écho, en complémentarité, à une journée d'études que lui consacre le Centre de documentation de la musique contemporaine, ce mercredi 27 novembre de 9h30 à 18h30. Une rencontre coordonnée par Delphine Grivel et Christelle Reynaud, qui cherchera avec de nombreux invités, elle aussi, à mettre en lumière la place de ce compositeur oublié du paysage musical contemporain, initiative que nous saluons vivement et dont nous nous réjouissons. Nous vous invitons donc maintenant à nous suivre et à poser nos pas dans les pas d'Antoine Tisney et à pénétrer dans son imaginaire, son univers poétique et musical, pour essayer d'approcher, de soulever le voile qui l'entoure. L'homme, l'œuvre, le parcours, nous serons accompagnés par plusieurs invités. Daniel Ribouillot, musicologue, Jean-René Combe-Damien, compositeur, viendront nous aider à découvrir toute la dimension de cet homme qu'a été Antoine Tisney. Nous venons d'entendre « Danse des initiés » d'Antoine Tisney, extrait du dernier, des visions des temps immémoriaux. C'était le dernier mouvement, un enregistrement réalisé en 1986. Et comme interprète, nous avions Françoise Délogère aux ondes Marteneau, Gilles Bérard au piano, Michel Gasteau aux percussions.
Dès l'enfance, j'ai découvert la dimension cosmique à travers mes pérégrinations dans la montagne des Pyrénées, dont je suis originaire. Avant même d'avoir la moindre conscience scientifique, ma sensibilité a été sollicitée par l'infini du ciel.
Nous allons avoir au cours de cette émission la parole, les expressions d'Antoine Tisney, ses réflexions. Et Lucien, nous venons déjà de pénétrer d'entrée dans cet univers justement que nous propose Antoine Tisney et qui fait ce lien parce qu'il le dit à plusieurs reprises comme ça, cette attirance aussi avec, dans sa manière d'écrire avec l'univers, avec le cosmos, avec le côté aussi très ancré avec tout ce qui va être l'ordre du rituel aussi également. Voilà, et on sent déjà dans cette vision des temps immémoriaux, déjà un peu toute cette, toutes ces formes, toutes ces tensions aussi à l'intérieur.
Il est vrai que Antoine Tisney, on pourrait le considérer comme le parangon du mouvement, qui est quand même l'élément fondamental de toute musique. Et il a une ardeur intérieure qui est constamment à l'œuvre, et ce n'est pas une définition de sa musique, mais ce sont des éléments conducteurs. D'ailleurs, ici, chacun peut entendre ce qu'on peut faire avec une mesure qui a quatre temps dans le rythme dit moderne, et la vivacité et la pertinence en même temps de ce qui est écrit dans cette pièce flamboyante.
Complètement. Donc, du coup, on évoquait l'enfance. Donc les origines des Pyrénées. Antoine Tisney donc est plus précisément né à Lourdes. C'est dans cette ville, comme l'écrit David Niemann, le légataire testamentaire d'ailleurs de l'œuvre d'Antoine Tisney, mais aussi l'écrivain puisqu'il est l'auteur d'un des rares livres justement qui retrace le parcours, l'histoire et l'homme qu'a été Antoine Tisney. Et il disait ceci, que cette ville accroupie dans les rides et les os des Pyrénées qu'Antoine Tisney voit le jour le 29 novembre 1932. En levant les yeux et en pivotant, on découvre progressivement le pic du Gers, le Béout et le Mammouth. Ces collines joueront un rôle important dans sa vie. L'enfant, l'adolescent, puis l'homme viendront tour à tour se poser sur l'épaule à la manière d'un animal apprivoisé, mais toujours inquiet. L'image peut sembler exagérée, mais elle représente assez l'état d'esprit de cet homme qui, dès les premières années de sa vie, semble guetter le monde et la vie pour comprendre le message qu'il pressent dans leur silence. Voilà, fin de citation. Alors aussi, il y a l'univers familial d'Antoine Tisney. Sa mère, Berthe Tisney, est une simple bourgeoise d'origine basquaise. Je cite encore David Niemann. L'absence très tôt d'un père force le garçon à grandir dans un milieu où l'élément féminin joue un rôle prépondérant. Et cet entourage, à part sa tante, fera montre par la suite d'une incompréhension totale à l'égard de sa vocation musicale. Elle obligera d'ailleurs le provincial qu'il est à une sorte d'exil où le rôle joué par l'éloignement du milieu familial aura une influence certaine sur la psychologie du jeune musicien. Il en gardera d'ailleurs toujours une mélancolie inexprimable.
Pour tout ce qui a trait à mon enfance, je n'avais d'autre possibilité d'entendre de la musique qu'à partir de l'orgue de mon église et des chants latins qui constituaient le répertoire de la chorale à laquelle j'appartenais.
Thank you.
Voilà, c'est aussi à travers ce petit extrait de la maîtrise de Chartres, ce plein chant, ce Regina Celli, on fait un petit peu écho à cet univers qu'a découvert très rapidement, dans lequel a baigné aussi Antoine Tisney, et puis qui effectivement aura des incidences, bien sûr, par la suite. Alors, nous parcourons rapidement cette partie plus intime et familiale et de l'enfance d'Antoine Tisney pour dire qu'ensuite, à partir de 1944, à la Libération, il découvre le piano auprès de Léon Bordenave. Et depuis plusieurs années, Antoine Tisney, d'ailleurs, sans avoir peut-être acquis d'ailleurs les rudiments de la musique, le langage de la musique, recopie des partitions de musique pendant ses temps de loisir. Et c'est en cela où sa tante est très attentive à ça, où quelquefois ça amène de l'incompréhension vis-à-vis de son entourage familial, mais pendant tous ses temps de loisir, il recopie de la musique, qu'elle soit ancienne et autre. Et tous ces éléments-là, que ce soit ses œuvres anciennes, mais surtout en les recopiant, il veut se donner les moyens de composer ses propres œuvres, et ce pour deux raisons. L'une, parce que la musique est au fond son unique centre d'intérêt. L'autre, parce que le langage musical lui permet d'appréhender la vie, d'en choisir les facettes les plus en accord avec son imagination, ses espoirs profonds. Et là, voilà, il y a toute une dynamique. Et pour nous aider justement à aller un petit peu plus loin dans cette écriture, dans l'œuvre aussi d'Antoine Tisney, nous allons accueillir à l'antenne notre premier invité, Daniel Ribouillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en musicologie à l'Université de Paris-Sorbonne et vous avez été également la fondatrice, la directrice des Cahiers de la guitare. Et nous avons évoqué rapidement, bien sûr, puisque dans le cadre d'une heure d'émission, nous sommes obligés, sur certains aspects, d'aller un tout petit peu vite, mais quand même, un peu cette enfance pyrénéenne, l'entourage un peu familial dans lequel est arrivé, bien sûr, Antoine Tisney, comment les choses se présentaient pour lui. Et nous savons aussi que bientôt il quitte cette région et puis à un moment donné il va aller suivre l'enseignement de grands maîtres tels que Darius Milhaud, André Jolivet, et puis bien sûr il va venir progressivement le grand compositeur que l'on connaît. Alors je dirais de votre point de vue, de votre regard à vous, de musicologue, et je sais aussi l'intérêt que vous portez à la musique de cet homme, comment vous percevez l'homme, comment vous percevez cet univers musical ou sa musique?
Écoutez, déjà, avec ce qui a été dit, ce qui ressort, je crois, c'est l'évidence d'une vocation.
Tout à fait.
Et ça, c'est donc qu'il y a quelque chose qui coule de lui, naturellement, un flux musical. Et c'est ce que moi, je ressens, et d'autres amis musicologues, à l'écoute de ses œuvres. C'est cette chose, cette énergie créatrice, ce mouvement vital qu'on sent aussi bien dans son expression du rythme, que dans son expression des couleurs aussi. Il aime écrire pour la flûte, il aime écrire pour la trompette, le clavecin. Mm. Et même dans le concerto pour flûte, par exemple, l'orchestration est remarquable. Et puis il y a aussi, et ça on le sent tout de suite à l'écoute de ses œuvres, un dynamisme des lignes, je dirais mélodique, j'emploie ce terme à dessein. Il y a une directionnalité, on suit toujours la continuité de ce déroulement, du début jusqu'à la fin. Là encore, je parlerai de mouvement vital, d'énergie, qui en fait l'habite certainement depuis qu'il est tout petit et qui s'est imposé à lui.
Complètement. Et là, vous avez raison, Lucien Guérinel faisait juste avant votre arrivée à l'antenne une allusion, un commentaire par rapport à l'extrait que nous avons diffusé tout à l'heure, qui était un extrait des visions des temps immémoriaux et notamment la danse des initiés. Et Lucien Guérinel, qui est à nos côtés, évoquait exactement cette idée du mouvement.
Ah oui. C'est curieux parce que je n'ai pas entendu Lucien Guérinel, donc je suis à l'antenne.
Voilà, il va vous répondre de suite.
C'est intéressant, oui.
Bonjour, madame.
Bonjour, comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté de participer à cette émission. Et il est vrai que la personnalité d'Antoine Tisney ne peut que susciter, je cherche le mot, je ne vais pas le trouver, un consensus, ce qui est une chose fort rare dans le monde d'aujourd'hui, et même dans celui d'hier. Et c'est vrai, on a les mêmes mots, les mêmes observations, avec nos, nos personnalités différentes, bien entendu. Et c'est vrai que c'est un homme de feu et de mouvement, Antoine Tisney.
Voilà.
Et voilà, sa musique est portée. Et d'ailleurs, une des œuvres qui figure sur un des disques que nous avons, c'est Ombre de feu. Mmh. Alors évidemment, ça a également une résonance rhétorique, mais que je ne trouve pas dans l'immédiat. Ombre de feu, c'est-à-dire l'opposition entre les deux mots, et
oui,
ça n'est pas pour rien,
oui,
parce qu'effectivement, c'est un homme qui traverse, à travers les ombres qui sont les siennes, a le feu nécessaire pour les surpasser en quelque sorte.
Tout à fait, pour les exprimer, et c'est tout un monde intérieur qui nous révèle.
Tout à fait.
Plusieurs mondes intérieurs, très variés.
C'est ça.
Il y a une richesse de l'imaginaire chez Antoine Tisney qui est extrêmement séduisante. Encore une fois, on ne s'ennuie jamais à l'écouter, et l'attention est toujours soutenue.
C'est
pourtant une musique pleinement contemporaine, mais qui nous parle, tout simplement.
Hein. Et là, il touche à quelque chose d'essentiel dans son rapport à la musique d'aujourd'hui, en tout cas, ce qui en fait certainement aussi une écriture particulière et un parcours particulier.
Oui, moi j'ai parlé d'humanisme plusieurs fois à son sujet. Il y a dans ses œuvres une chaleur, quelque chose, oui, le terme est chaleureux dans cette musique. Et elle s'adresse en fait, curieusement, à tous les publics. J'ai fait l'expérience, je sais que les enfants, ils sont tout de suite sensibles. Mmh. Et des étudiants qui sont a priori un petit peu...
plus hermétiques.
Timides, quand on leur parle de musique contemporaine, tout de suite marchent avec Antoine Tisney. Peut-être parce qu'il y a cette vitalité, cette évidence du discours musical, de la structure. En fait, cette évidence structure tout le reste.
Et je crois que, du coup, on essaye aussi, au cours de cette émission, d'avoir la parole d'Antoine Tisney parmi nous. Et peut-être pour faire écho, justement, Daniel Ribouillot, à ce que vous venez de dire, voici ce que disait Antoine Tisney, par rapport à sa musique.
Je considère que la musique ne doit pas être une abstraction, mais le reflet de toutes nos pulsions. Si elle s'écarte de cela dans le but de la seule spéculation intellectuelle, elle ne remplit pas son rôle, et croyez-moi, le public ressent la différence selon que l'ensemble d'informations qu'on lui propose est ou non porteur d'une charge émotionnelle.
Évidemment.
Voilà, je trouve que ça fait un écho complet avec ce que vous veniez de dire.
oui, tout à fait.
Du coup, on sent bien que c'est pas gratuit, que à chaque fois c'est quelque chose de très profond qui guide son écriture. Et quand il parle de la main, il y a dans cette interview avec Myriam Soumaniac où il dit comment l'importance de l'écriture au niveau de la main. Il parlait aussi de tout le côté électronique ou informatique musicale, mais pour lui la prégnance effectivement de l'écriture et que les idées venaient pas, puis d'un seul coup, tac, ça y est, les choses se mettaient en marche. Et il y avait le feu que vous évoquiez tout à l'heure.
C'est l'inspiration.
Voilà, complètement.
Voilà.
Et là, on sent toute cette force humaine et qui fait que vous avez raison. Et c'est bien ça l'importance, qu'elle peut convaincre n'importe quel public à partir de là.
C'est tout à fait ça. Et alors, quelque part, je me dis que c'est ça qui signale un vrai musicien. C'est d'abord la conscience qu'il a de sa démarche, et puis cette accessibilité, quel que soit le langage utilisé, parce que oui, il compose avec le langage du XXe siècle, mais il n'est pas rébarbatif, pas du tout, au contraire, il n'y a jamais d'agressivité gratuite chez lui, dirais qu'à l'inverse, il y a une finesse, il y a une grâce de la pensée. C'est toujours le mot « évidence » qui revient pour moi.
Oui, ça, je suis assez d'accord aussi avec vous. Cette force, alors pour évoquer après la présence de cet homme, parce qu'il a quand même, quand on parle de Darius Milhaud, Jolivet, il a côtoyé là aussi des écritures et des forces de pensée et de traduction musicale aussi très importantes. Mais en même temps, je pense que les rapports avec Darius Milhaud étaient très proches. Mais en même temps, il a su garder, alors peut-être que c'est dû aussi à ses origines, cette intégrité, je dirais, c'est-à-dire que cette authenticité, finalement.
Oui.
Et c'est, souvent, quelquefois, on a des styles de langage, finalement, qui se développent, le mot chapelle d'écriture.
Uh-huh.
Là, non. Il rencontre des très grands, mais en même temps, ça renforce vraisemblablement ce qu'il est.
Ça renforce encore cette idée qu'il y a une cohérence interne dans son discours. Il y a quelque chose qui s'écoule naturellement. Hein. Et encore une fois, pour moi, ça signale un vrai grand musicien.
Totalement. Je crois que Lucien, justement, voulait rebondir par rapport à ça également.
Oui, rebondir, le mot était peut-être un petit peu trop fort, mais je glisserai quand même quelque chose. C'est qu'en 1994, j'avais le grand honneur de faire un peu de critique musicale dans un quotidien marseillais. Et j'avais écrit, à la suite d'un concert qui était voué à la musique d'Antoine Disney, cette petite phrase. « Grand compositeur de notre temps, cet homme discret, poursuit sa route solitaire et sème, au pied des forteresses, du geste immémorial qui échappe aux mécaniques imposées, une musique dont le prix et le style, la mesure d'une pensée. » Bon, j'ai pas très bien fini ma phrase, je vous en demande pardon, c'est pas tout à fait ça, mais ça n'est pas grave. On a compris quand même ce que je voulais dire.
Mais ah oui, absolument, cette humilité dont vous parlez, c'est aussi la marque des grands, bien souvent.
Absolument. Complètement, et des très grands, effectivement.
Oui, 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 oui.
Et puis peut-être aussi, toujours aussi de votre point de vue, on sait que dans toute cette évolution du compositeur, quand il travaille avec les grands qu'on évoquait à l'instant,
oui.
Il côtoie bien sûr de futurs et grands compositeurs. Je pense à Betsy Jolas, je pense à Gilbert Ami, et on pourrait en citer plein d'autres.
Oui.
Donc à la fois, c'est pour essayer un petit peu d'aborder, je disais en début d'émission finalement que c'est quelqu'un qu'on entend rarement, que trop rarement. On va être d'accord, je crois, tous les moyens de diffusion qu'il existe aujourd'hui. Mm. Bien sûr, il y a des travaux musicologiques, mais quand même la presse spécialisée, les journalistes s'intéressent relativement très peu aussi à ce compositeur, alors qu'il a côtoyé et il était très proche aussi de ceux que je citais, Pierre Boulez. Et on sent que autant certains, bien sûr, aujourd'hui, on en parle beaucoup, et autant cet homme qu'il a été et l'œuvre qu'il a construit, élaboré, aujourd'hui est un peu laissé dans l'ombre.
Oui, je reconnais, je pense qu'il y a des phénomènes de mode, comme... c'est un moment de l'histoire. Oui. L'œuvre d'un créateur, elle est au-delà un petit peu des contingences, des modes. Mmh. Et de toute façon, sa qualité intrinsèque, à condition que les interprètes, bien sûr, jouent sa musique, elle va ressortir. Oui. Elle ressortira peut-être un peu plus tard, quand on aura fait un peu le tri.
C'est ça.
Bon, voilà. Moi, je pense que les humbles comme lui, les oubliés, même actuels, les mal-aimés, si on veut, sont de tout temps, eux, qui ont montré la voie. Regardez l'histoire de la musique que j'enseigne régulièrement. C'est pas l'académisme.
Mmh.
Même fut-il engagé, ça n'est pas l'académisme.
Tout à fait.
Et fut-il engagé à contresens du mouvement de l'histoire. Voilà, donc de toute façon, moi je suis optimiste.
Ah mais tout à fait.
Je pense qu'il suffit d'écouter ses œuvres pour être convaincu. Alors, dans le domaine de la guitare, le duo Roy Tréhard a enregistré cette œuvre très très jolie, Ombra Veneziana, pour deux guitares. Mmh. Et je regrette que ça n'ait pas été réédité, c'est pas vrai.
C'est vrai, vous avez raison.
Oui, oui, oui. Je veux dire l'enregistrement, parce que l'édition chez Biodo aussi.
Voilà, de ce côté-là, effectivement, l'éditeur.
Travail est très bien fait par l'éditeur.
Voilà, là, il y a un très beau suivi, et effectivement, là, on peut se procurer, on a l'accessibilité à une grande partie du répertoire d'Antoine Disney, et ça, c'est quelque chose, effectivement, de très important.
Tout à fait. Puis maintenant, avec Internet, on peut avoir accès à un certain nombre d'enregistrements, comme par exemple celui de Jean-Pierre Rampal, le concerto pour flûte et orchestre joué par Rampal, c'est divin.
Oui, ça c'est sûr que vous avez raison et qu'on a une grande importance à pouvoir faire circuler et à faire découvrir effectivement cette musique et de voir qu'elle est extrêmement vivante.
Oui, l'hommage à Calder par exemple, pour clavecin, c'est formidable.
C'est montré aussi, Antoine Disney était grand voyageur aussi, il a voyagé dans de nombreux pays et c'est attrait justement des cultures. La Grèce aussi a eu un impact très fort aussi sur multiples œuvres, mais aussi puisque on évoque un peu aussi les couleurs, le rapport aussi à la peinture. Je pense notamment à certaines œuvres par rapport à Goya aussi également, qui ont été des sources d'inspiration très importantes pour plusieurs de ses œuvres. On voit que aussi, je parlerai aussi de la danse, Janine Chara par exemple aussi, qui est une des grandes chorégraphes, qui va aussi concevoir plusieurs œuvres chorégraphiques aussi par rapport à ça. Donc on le voit bien aussi qu'il était à la découverte aussi de pluridisciplinaire finalement.
Tout à fait. Oui, une vision universelle. Hein.
Voilà, ouais, complètement. Et on voit vraiment ce que peut être le musicien, l'homme, avec tout ce qu'il est dans ce qu'il vit de son siècle et toutes les impressions qui sont là et qui le nourrissent et qui finalement, ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, charpente aussi vraiment très profondément son œuvre.
Complètement, avec un bagage qui est le sien, son imaginaire à lui, il visite quantité de monde et il restitue l'essence de tout ça au travers de lui, de son prisme. Et ça encore, c'est la marque d'un grand musicien.
Complètement.
C'est évident.
Ben, on voit bien, notamment quand il obtient, voilà, la première fois, ça n'avait pas marché, mais le Grand Prix de Rome. D'ailleurs, les relations après qui se sont nourries de manière très proche, aussi avec Dutilleux, par exemple. Hein,
Et
en relisant dans le livre de David Nonniman, qui là aussi, quand on évoquait les publications un petit peu rares, en tout cas rassemble en tout cas pas mal d'éléments sur le parcours d'Antoine Tisney.
Oui.
On voit apparaître justement Henri Dutilleux, quelques échanges justement épistolaires justement entre eux, très riches et très forts aussi.
Oui.
Et on voit justement que Dutilleux perçoit bien ce que vous disiez aussi également à l'instant, cette personnalité qui est là, qui est en devenir. Et il a beaucoup de respect justement pour Antoine Tisney.
Eh oui, bien sûr.
Ce qui fait rebondir Lucien. mais voilà, c'est vrai qu'on sent, et j'espère que nos auditeurs qui nous accompagnent au cours de cette émission vont petit à petit sentir justement toute la dimension de ce que cet homme qui est Antoine Tisney et toute la richesse justement que sa musique peut nous donner aujourd'hui.
Voilà, c'est quelque chose qui est humain.
Oui.
Cette musique, elle s'inscrit en fait dans la culture humaine immémoriale, parce qu'il se réfère aux origines de l'humanité. Il a un sens de la monodie qui est extraordinaire.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Je pense aux pièces pour saxophone, justement, qu'il a écrit, le saxophone et orchestre, et qui là aussi sont une manière de pouvoir montrer toute cette qualité monodique également.
Oui, ce sens du mélisme.
Tout à fait.
Oui.
Alors,
universel, je crois que le mot est bien.
Voilà, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Alors, je vous propose, Daniel, si vous voulez bien, qu'on écoute à nouveau la pièce justement pour saxophone alto et orchestre d'Antoine Tisney. C'était Ombre de feu d'Antoine Tisney avec au saxophone Paul Weihage, l'orchestre philharmonique de Brno sur la direction de Leos Swarovski. Magnifique.
Oui.
On a difficile de dire des mots d'ailleurs.
On peut dire poétique.
Oui. Oui. Tout à fait. On ressent aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette continuité d'une force qui se développe. Cette énergie,
cette vitalité.
Oui, un discours qui avance, vous avez tout à fait raison.
Et puis, si vous me permettez, je pense que tout concerto, le terme de concertare est quand même un terme important dans la vie musicale. Et le faire un concerto, c'est quand même établir un rapport entre un soliste et un orchestre. Bon, ça c'est une lapalissade, bien sûr, mais au-delà de la lapalissade, il y a le savoir-faire, il faut qu'il y ait un ouvrier, il faut qu'il y ait un manœuvrier. Et là, à mon avis, Antoine Tisney est très au-dessus de la plupart des contemporains que nous connaissons. Je pense que vous ne me contredirez pas, cher ami, lorsque le solo du saxophone s'achève et qu'il est repris par l'orchestre, pour moi, c'est un des très hauts moments de toute la musique du XXe siècle.
Oui.
Voilà. Or, où sont les porte-paroles d'une nation? Dites-le-moi, si vous le savez.
Oui, non, tout à fait. Mais là, je pense que nos auditeurs aussi, au travers de cette œuvre-là, ouais, sentent vraiment toute cette dimension que nous essayons de leur faire partager. Et que là, oui, il y a vraiment une curiosité à développer et sans souci à aller découvrir, quelles que soient les facettes de l'œuvre musicale d'Antoine Tisney. On ne sera jamais déçu de ce qu'on va y entendre et y découvrir.
Oui, puis je crois qu'on peut dire également un petit mot sur les étrangers qui ont fait cette œuvre, puisque c'est l'orchestre de Brno. Oui, évidemment. Voilà encore point de suspension. Je ne connais pas la partition autrement que par l'oreille, mais il me semble que le chef et l'orchestre font justice de cette musique. Hein. Ça m'a paru très intéressant.
Oui, on sent la logique interne.
Ah,
hein.
Oui,
c'est une musique qui raconte.
Absolument. Et le saxophoniste, même chose, il n'a pas fait une espèce de numéro personnel. Il a joué une partition qui est faite pour cela, et il en a été le traducteur humble et brillant en même temps. Voilà.
On a la conception formelle, du début
oui,
à la fin.
Moi, c'est bien. Voilà,
parce
c'est...
que la fin aussi est superbe.
Oui, la fin est vraiment superbe aussi.
Oui,
cette
également.
Suspension qui arrive là. Et vous parliez de couleur aussi tout à l'heure. On est vraiment pris dans cette image de couleur qu'il nous laisse au travers des sons qu'il nous propose et comment il les manie. C'est merveilleux, quoi.
Oui, c'est beau.
Nous allons vraiment vous remercier très 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 chaleureusement Daniel Ribouillot d'avoir bien voulu d'être présente dans cette émission avec nous et d'évoquer justement Antoine Tisney. Et puis peut-être qu'on aura le plaisir, si vous en êtes d'accord, peut-être de vous ressolliciter à d'autres moments dans cette émission parce que c'est vraiment un plaisir en tout cas partagé avec Lucien d'évoquer avec vous et notamment bien sûr Antoine Tisney, mais voilà, votre manière aussi d'aborder la musique et son histoire et aussi ce qu'elle est. Voilà.
Mais écoutez, de rien. De toute façon, je le fais volontiers parce que je me sens presque le devoir de dire ce que je sens, ce que j'ai observé et j'ai surtout envie de partager avec
tout
d'autres.
Tout à fait, ça se sent.
Voilà.
Et
voilà.
On vous en remercie énormément.
De rien.
Merci. En tout cas, nous, on va poursuivre. On va être avec Jean-René Comte-Damien, quelqu'un qui a aussi côtoyé à un moment donné aussi Antoine Tisney. Mais un grand merci à vous et puis bien sûr, on vous dit peut-être à très bientôt. Donc, en tout cas, et bonne continuité à vous. Au revoir. Donc voilà, Lucien, on vient là d'évoquer avec Daniel Ribouillot vraiment déjà des facettes importantes de cet homme qui est Antoine Tisney. Effectivement, avec tout ce qu'on disait, finalement, on pourrait se dire pourquoi n'est-il plus joué que ça. On était sur les interprètes, la qualité des interprètes de cette musique.
Ne me tendez pas une perche perverse, cher ami, parce que vous connaissez mon goût de la critique. Et bon, on répondra peut-être une autre fois à cette question, parce qu'il faut contrôler ce que l'on dit, même si l'on doit dire des choses sévères, parce qu'une critique, c'est fait pour être sévère, sinon ce n'est pas une critique. Sévère, juste, hein. Voilà, nous sommes admiratifs aussi. C'est une critique, ce qu'on a dit du concerto de cette pièce plutôt concertante de Tisney. Et même si on est admiratif, c'est une critique d'être admiratif. Bien, il faut rappeler aussi ce terme-là.
Oui, non, mais tout à fait.
C'est la valeur de ce terme, qui n'est pas un terme ambigu. Alors donc, effectivement, on pourra se poser les questions, on se les pose d'ailleurs, mais on pourra peut-être approfondir cette question une autre fois, parce que là, vous avez quand même à écouter notre ami Jean-René Comte.
Il est en ligne, actuellement.
Puis, on parle de Tisney. Les autres méritent peut-être d'être dans la salle d'attente.
Ah, très joliment dit. Alors, nous rejoignons notre second invité, Jean-René Comte d'Amiens. Bonjour.
Bonjour, Boudard, Alain.
Voilà. Bien, en tout cas, pour rappeler nos éditeurs que tu es compositeur, et puis au-delà de ça, et même surtout au-delà de cela, un ami fidèle et cher aussi à Résonance Contemporaine, et aussi parce que ton parcours musical, à un moment donné, a fait que voilà, tu as croisé aussi celui d'Antoine Tisney. Tu étais très proche aussi de l'homme, je dirais, autant de l'homme que du compositeur dans cette période. Puis aussi, rappeler à nos auditeurs, parce que c'est aussi un autre aspect. J'évoquais qu'il y allait y avoir le 26 novembre prochain une rencontre au CDMC à Paris consacrée à Antoine Tisney. Mais aussi que grâce à toi, Antoine Tisney, c'est une de ses raisons de cette émission, est venu dans l'Ain. Et s'il est venu dans l'Ain, ici, à plusieurs reprises, c'était aussi un petit peu grâce à la collaboration que nous avons depuis plusieurs années avec toi. Alors peut-être, je me disais qu'on pourrait tout d'abord revenir peut-être sur les circonstances qui font qu'à un moment donné, dans ton parcours musical personnel, il y a cette rencontre. Comment ça se passe, cette rencontre avec Antoine Tisney, l'origine de cette rencontre?
Alors l'origine, c'est très drôle parce que j'ai rencontré Tisney j'ai croisé Tisney à plusieurs reprises avant de le rencontrer réellement. Comme quoi les hasards, je pense, n'existent pas. Mais la vraie rencontre qui nous a amené à être, professeur et élève, puis plus tard ami, c'est par l'intermédiaire du Conservatoire européen de musique dans lequel je travaillais avec Patrice Fiortino, et qui un jour nous a fait passer un examen de fin d'année, on va appeler ça comme ça, a demandé à plusieurs compositeurs, dont Antoine Tisney, de juger nos partitions, de lire nos partitions et de les juger. Et puis, chacun des compositeurs avait fait un compte-rendu de chaque partition. Les uns étaient plus ou moins, agréables à mon égard. Lui, il était très agréable à mon égard. Alors, c'était tout naturellement que je suis allé vers lui, parce que on n'aurait pas idée d'aller voir un compositeur qui vient de vous éreinter pour lui demander des conseils. C'est clair. Donc, moi, je l'avais entendu déjà par l'intermédiaire de radio, lors d'un stage à Romans, il y a très longtemps, 79, je crois, je l'avais entendu parler. Et j'avais senti chez cette personne une humanité qui s'est confirmée lors des rencontres que j'ai eues longtemps après. Voilà les vraies circonstances de la rencontre.
Oui, donc c'est la musique, quoi. En tant que telle, musique et son regard aussi, lui, bien sûr, de musicien, de compositeur, qui fait que du coup, ce qui est d'autant plus chouette d'ailleurs, que cette rencontre finalement a eu lieu, quoi.
Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Je me souviens dans cette petite pièce qu'on nous avait fait faire, il y avait une partie pour 4 ou 5 violoncelles, et j'avais traité ça comme je pouvais à l'époque, mais il en avait parlé beaucoup dans ce moment-là, dans ce petit compte-rendu, et quand je l'ai appelé, je me souviens très bien, le coup de téléphone, c'était un mardi matin, je m'en souviens encore, et il m'a répondu, après la discussion, quelque chose comme « je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde », enfin, visiblement, on s'est compris dès le premier coup de fil, quoi. Et c'est tout naturellement qu'on s'est rencontrés régulièrement à Montparnasse.
Et ça veut dire qu'après, c'est des rencontres de travail qui ont lieu entre vous ou...
Alors au départ oui, c'est naturellement, moi j'avais des partitions, forcément,
bien sûr.
Ma démarche c'était celle-là, hein. J'étais été livré moi-même, sans personne vraiment à qui parler, comme disait le Petit Prince. Non, l'aviateur, pardon. Et du coup, quand je venais le voir à Montparnasse, même chez lui, je crois que j'étais avec lui deux, trois fois chez lui, on a jamais des partitions, mais très curieusement, spontanément de sa part et de la mienne, les partitions, au départ il les lisait, puis après il les lisait de moins en moins, et puis moi quelquefois j'arrivais avec mes partitions, je les sortais même pas, et on discutait, on en est venu à parler de beaucoup, beaucoup de choses, sans nécessairement parler de musique, mais je me suis toujours demandé si c'est pas dans ces moments-là que j'ai le plus appris sur la musique que dans la lecture pure et simple des partitions, quoi.
De toute façon, on évoquait justement à l'instant avec Daniel Ribouillot, justement, toute la manière dont elle nous a fait part de son témoignage et le regard qu'elle portait sur Disney, c'est ça. C'est-à-dire cette humanisme, cette profondeur aussi, cette énergie qui nourrissait l'homme et que du coup, c'est ce qui donnait naissance à cette musique et à la force de cette musique et l'énergie qu'on pouvait trouver dans cette musique.
Oui, c'est ça. Oui, j'ai le... C'est le, je crois, c'est son point de départ, je crois. Et bon, on va vers les gens avec lesquels on se sent en résonance, sans faire de jeu de mots, bien sûr, mais enfin, c'est vraiment le cas. Et d'ailleurs, entre parenthèses, tu as bien choisi le nom pour ton association, puisque c'est, en dehors d'être contemporaine, elle fait résonner les gens entre eux, ça c'est clair.
Tout à fait.
Mais c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, on a quand même assez peu parlé de musique ensemble, parce que, alors, non pas que je n'avais rien à apprendre côté technique, ça c'est sûr, mais à la limite, je pouvais l'apprendre par les tours d'autres partitions et par d'autres biais, mais on est parti sur d'autres chemins spirituels pour lesquels il était très attaché, et puis poétique, peinture, enfin on a parlé de tas de choses. Et malgré
oui,
tout,
parce que chez Disney, l'aspect spirituel et l'aspect temporel, ça aussi c'est quelque chose de très important dans sa musique, et parallèlement, moi qui connais bien évidemment aussi ta musique, c'est les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y a aussi une résonance spirituelle et il y a un rapport du spirituel et du temporel aussi également dans ta musique. Donc là, il y a vraiment un point de, je dirais, entre vos deux aspects qui sont des manières différentes, bien sûr, de facture, de mise en forme, mais il y a un fondamental, quoi, entre cet aspect spirituel et temporel.
Oui, ça c'est évident. C'est vrai qu'il y a... J'ai peut-être un bruit un petit peu à part, là, c'est mon chien qui s'ébroue à côté de moi, excusez-moi, désolé.
Mais ce qui montre que la radio est vivante et que c'est une,
vivant, voilà,
une c'est... Voilà, vraiment une interview en direct à l'antenne de Radio Tropique.
Et désolé pour cette petite aparté tout à fait indépendante de ma volonté. Oui, l'aspect spirituel était très important chez Disney, par l'intermédiaire aussi de notre ami commun, David Niemann, qui a réalisé ce livre sur... il y a fort longtemps sur Antoine. Et moi, c'est un aspect des choses qui, en dehors de la musique, est permanent chez moi, cette recherche spirituelle d'une... Alors, je donne pas de nom, je ne cite rien, il n'y a pas d'histoire religieuse dans tout ça, mais c'est vrai que